Le 2 mars dernier, le conseil de ville de Magog s'est réuni. Nous avons pour nous en parler Vicky Mayham, la mairesse. Alors, Madame Hamm, bonjour.
Bon matin, Rémi.
On va prendre ensemble le temps de se pencher sur quelques points avec lesquels on va faire des suivis éventuellement dans cette entrevue-là. Entre autres, on a parlé dernièrement donc de la fermeture de cette fausse caserne au lac Loving. La salle était pleine hier. On a parlé aussi dernièrement de cette nouvelle réglementation au niveau des clôtures autour des piscines. La salle était pleine hier. Et donc, ce sont des suivis là, qu'on va faire dans cette entrevue. Mais à prime abord, on va se pencher sur un des points qui était là et qui est tout aussi important parce que ça soulève aussi des questions. Un investissement de 700 000 $ de la part de la ville de Magog dans un projet de 2,1 millions de $ qui va permettre à la ressourcerie des frontières, basée à prime abord à Quaticook, d'ouvrir un éco-centre ou d'ouvrir en fait à côté de l'éco-centre un centre de tri. Quel est l'avantage, là, au tout début, pour la ville de Magog d'investir 700 000 $ là-dedans, sachant qu'on pourrait faire les choses peut-être à moindre coût si on le faisait à l'interne?
Premièrement, il faut déménager l'éco-centre cette année, donc on espère l'ouvrir à la fin de l'année 2015, parce que où on était situé, c'est un projet pilote, on s'en va dans le parc industriel. Et là, on avait effectivement deux options. Continuer à s'occuper nous-mêmes de ce qui rentre à l'éco-centre ou par notre collecte de gros rebuts, ou le confier à un tiers. Puis la ressourcerie a vraiment fait ses preuves à Quaticook. Ils ont un taux de détournement de l'enfouissement de 93%. C'est nettement supérieur à ce qu'on peut atteindre, nous. Puis en plus, ils offrent un service vraiment plus pour la collecte de gros rebuts.
Je vous prends un brûle pour point là, quand vous dites que c'est nettement supérieur à ce qu'on peut atteindre, nous. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de ce que vous avez atteint avec votre éco-centre là, jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on parle de 50%, 60%?
Bien, c'est parce que c'est dur à dire. Ce qu'il faut que les citoyens sachent, là, c'est qu'avant, quand on faisait la collecte de gros rebuts là, avec le camion, ça s'en allait tout à l'enfouissement. Il n'y avait pas de valorisation. Maintenant, depuis quelques années, c'est démantelé. Puis là, on avait de la misère à gérer, nous, avec des jeunes étudiants de la ruche, de défaire les matériaux pour les séparer, pour être capable d'aller chercher le maximum. Puis il n'y avait pas de revalorisation, zéro. Zéro rénovation, restauration, revalorisation. On n'avait pas l'infrastructure pour le faire. Alors que ça, c'est la recette de la ressourcerie.
Et donc, ils vont venir s'établir ici à Magog. Ils sont déjà très efficaces, effectivement, du côté de Quaticook. Il y a plusieurs municipalités, même en dehors de la MRC de Quaticook, qui ont déjà recours à leur service d'une manière ou d'une autre. En venant s'établir ici à Magog, est-ce qu'on s'assure en même temps du fait que cet organisme-là, qui est quand même à la base une entreprise d'économie sociale, est-ce qu'on s'assure qu'ils ont les reins assez solides, qu'ils ont les employés qualifiés qu'il faut là, pour atteindre le même 93% ici à Magog?
Mais ça, c'est l'autre beauté, c'est qu'il s'était donné 5 ans pour rentabiliser à Quaticook et ça fait 3 ans qu'il s'est déjà rentabilisé. Donc, quand on regarde les entreprises privées aujourd'hui qui ont de la misère à faire leurs frais en 5 ans, on se dit « wow, pour une entreprise d'économie sociale, c'est un beau succès ». Et là, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils commencent par ouvrir une boutique à Magog. Donc, ils vont avoir une boutique qui s'appelle le Magasin Général, qui vont ouvrir sur la rue principale. Ça va être quelque chose de bien, même s'il y en a qui ont eu peur un petit peu parce que c'est de l'usager. Ça va être quelque chose de bien. Et ils vont commencer à créer une habitude de consommation parce que justement, l'expérience qu'ils ont vécue à Quaticook leur a montré qu'ils ne veulent pas piler du stock puis ouvrir le magasin plus tard. Puis après ça, dans 18 mois à peu près, ils vont être capables d'ouvrir leur centre de tri ici puis de gérer nos matières.
Donc, ce sont deux projets totalement indépendants. Là. Il y a le magasin général. Le 700 000 $ de la ville ne s'en va pas pour la mise sur pied d'un magasin général. Là. À quoi va servir ce 700 000 $-là? Là? C'est pour la construction d'un bâtiment? C'est pour les infrastructures? À quoi ça sert au juste? Là?
Oui, exactement. On ne finance pas le magasin général, ça c'est sûr. Par contre, c'est pour un bâtiment qui va être adjacent. Donc, quand les gens vont arriver à l'éco-centre, sur un côté, ils vont avoir l'éco-centre, donc les matières, les résidus verts, etc., les matériaux de construction, ils vont pouvoir continuer à aller à l'éco-centre. Et puis, de l'autre côté, ça va être la ressourcerie, donc tout ce qui peut être valorisé. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont les ressources humaines, ils ont les compétences, puis c'est des plateaux de travail intéressants. Juste pour le magasin, là, ils parlent de conserver les emplois qui étaient déjà là au niveau du Rossi. Donc, nous, on finance vraiment la partie à côté de l'éco-centre.
Rappelez-nous, là, où va être ce fameux éco-centre après le déménagement? Là, où est-ce qu'on s'en va exactement pour que les gens sachent, puissent suivre le dossier aussi? Parce qu'il y a toute une période de construction. Là. Est-ce que les appels d'offres pour la construction de l'éco-centre et du reste sont déjà lancés?
C'est en cours. Si ce n'est pas lancé, ça devrait l'être sous peu pour l'éco-centre parce qu'on donnait le feu vert. Et puis, ça va être dans le secteur de la rue Tanguay, dans le parc industriel.
Parfait. Donc, déménagement éventuel de l'éco-centre, nouvelles ressources avec la ressourcerie des frontières, le tout combiné ensemble et indépendant, finalement, de ce fameux magasin général là, qui devrait ouvrir sous peu ici à Magog. On revient maintenant donc sur les deux dossiers annoncés en ouverture. Les gens étaient là, présents dans la salle à Magog hier, pour parler, entre autres, de la fermeture de la fausse caserne au lac Loving. On pressentait du côté des élus à Magog là, que ça pouvait effectivement faire une petite onde de choc, là, et puis que les gens allaient peut-être réagir un peu, mais peut-être pas à ce point-là. Là. On s'attendait peut-être pas à avoir une salle pleine, là, quand même.
Oui, moi, je m'en attendais, parce que c'est sûr que ça soulève des inquiétudes. Ce qui m'a surpris, c'est la réponse très variée des différents assureurs. Parce que rappelez-vous que, dans le fond, on avait un bâtiment avec un camion qui était au lac Loving, que certains assureurs considéraient comme une caserne et d'autres pas. Parce que, dans le fond, il n'y a pas de pompiers de garde, puis on se sert même plus du véhicule, parce que nous, on a un schéma de couverture de risque à respecter, et on part souvent de nos deux casernes où on a des pompiers en garde, puis on arrive à répondre dans le délai. La preuve a été faite au cours des dernières années. Fait que ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'il y a des assureurs que ça affecte presque pas, puis il y en a d'autres qui ont quasiment doublé leur prime d'assurance à partir du moment qu'il n'y aura plus de caserne. Fait qu'on a vraiment un problème à ce niveau-là.
Et, la ville de Magog en tant que telle ne peut pas se mettre à négocier, à approcher les différentes compagnies d'assurance, là. Comment faire? C'est à chaque citoyen, finalement, de se revirer de bord et d'aller négocier. Est-ce que la ville peut pister vers des compagnies d'assurance en disant, mais regardez, tel a doublé ses valeurs, a doublé ses cotisations, et puis l'autre n'a pas bougé. C'est à vous de faire votre travail de citoyen maintenant et puis de vous magasiner vous-même une assurance qui vous coûtera moins cher.
C'est sûr que j'invite les citoyens à magasiner. Et ça, c'est clair, pas juste d'appeler leur assureur. Mais en même temps, c'est quand même un problème qu'on va essayer d'adresser peut-être plus à l'échelle provinciale parce que l'assureur, tu sais, il y a des assurances qui tiennent compte des bornes sèches, d'autres pas. Pourquoi eux autres, ils tiennent compte du 8 km d'une caserne, même si c'est pas une caserne en opération, alors que le schéma de couverture incendie pour la province du Québec, elle parle de 15 minutes d'intervention. Eux autres parlent de 8 km. Il y a un problème là, de cohérence, ça fonctionne pas du tout, puis les citoyens sont tout mêlés là-dedans, puis je les comprends. Qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas, mais ce serait plate de maintenir une caserne à 50 000 $ mettons, par année, qui ne fonctionne pas, juste pour qu'ils puissent sauver sur leurs assurances. On peut pas faire ça.
Et donc, quand vous dites on va essayer de faire monter le dossier à Québec, c'est par le biais peut-être de l'Union des municipalités ou quelque chose comme ça, dans lequel vous êtes vous-même impliqué, là, parce que j'imagine que c'est pas juste à Magog qu'on rencontre ce problème-là. Le problème du 15 minutes et puis 8 kilomètres, il est à la grandeur de la province. Alors, si ça cause des problèmes ici, ça doit en causer ailleurs, là. Donc, il y aurait peut-être une pression générale à faire, ou si ça passe par le député libéral, là, de la région, là.
Bien, c'est drôle, moi, mon premier réflexe, c'était de demander à l'Association des pompiers. Mais si c'est pas ça, effectivement, l'UMQ, c'est une bonne porte d'entrée, mais il va falloir qu'il se fasse quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas répondre à deux normes différentes. Nous, on a une norme qui vient du ministère, puis on l'applique correctement, puis on investit beaucoup d'argent en équipement, en formation, etc. Donc, je sais pas, mais ma première intervention, c'était auprès des pompiers, puis de dire, pouvez-vous l'adresser à votre association?
Et donc, au niveau des citoyens qui étaient là hier pour donc se plaindre majoritairement que leur prime là, risquait de doubler pour certains, il n'y a rien à dire, si je comprends bien, autre que magasiner. Vous avez le loisir de briser un contrat d'assurance en cours de route. Profitez-en. Vous avez quand même le gros bout du bâton à quelque part.
Oui, mais on va quand même, on a une soirée d'information ce soir là-dessus, donc peut-être qu'on pourra s'en reparler dans une prochaine entrevue. On va quand même regarder avec eux c'est quoi les alternatives. Il y a même un citoyen qui a dit peut-être que nous, on serait prêt à se cotiser parce que ça touche 1700 portes. On serait prêt à avoir, il y en a un qui a dit ça, là, mais on serait prêt à avoir un taxe de secteur pour maintenir le bâtiment si les assureurs n'entendent pas le bon sens. T'sais. Alors, je ne sais pas ça va être quoi la solution, mais maintenir quelque chose qui n'est pas utile, mais une chose est certaine, on a envoyé une lettre à tous les citoyens pour être sûr qu'ils soient informés. On a fait ça de façon totalement transparente. Puis ce soir, la salle devrait être pleine à la soirée d'information.
Il y a un autre règlement dont on a parlé là, dernièrement, qui est le règlement entourant les piscines. Donc, c'est une nouveauté sans en être une, c'est ce que vous aviez expliqué lors de la dernière entrevue. Il n'y a pas de droit acquis en matière de sécurité. Si on veut être préventif au niveau des noyades, ça ne donne rien de donner une permission à un parce que sa piscine date d'avant 2010, si je me souviens bien. Donc, on demande à tout un chacun d'installer les clôtures adéquates autour de leur piscine. Au bout de la ligne, si on évalue l'investissement monétaire qui est demandé là, à ces personnes-là, ça ressemble à quoi? Parce qu'il y en a vraiment hier qui ont débarqué au Conseil là, en furie face à ce nouveau règlement-là. Là. Mais l'investissement qui est demandé, c'est de l'ordre de quoi? De quelques centaines de dollars? Quelques milliers de dollars?
Je pense que ça dépend vraiment de l'installation que les gens ont, mais c'est pas tant l'impact monétaire que les citoyens sont venus nous intervenir, c'est sur un élément particulier. Je pense qu'on est tous d'accord sur la sécurité, puis on est tous d'accord que si c'est pas sécuritaire après 2010, ça doit pas l'être avant 2010, mais dans la réglementation, puis une bonne partie qui nous est imposée par le gouvernement du Québec, il y a une partie qui fait pour eux un non-sens, puis c'est ça qu'ils sont venus faire ressortir, c'est-à-dire que si ton terrain est clôturé, complètement clôturé. Pourquoi qu'en plus, faudrait-tu mettre une barrière supplémentaire? Et c'est ce qu'exige la réglementation. Par exemple, en sortant de ta porte-patio, faudrait que tu aies une barrière supplémentaire pour pas avoir accès à la piscine. Eux autres, ils se disent, moi, si mon terrain est tout clôturé, ça devrait être suffisant. Alors, il y a peut-être des assouplissements qui vont être permis à ce niveau-là, mais je réinvite les gens à venir le 23 mars prochain pour la soirée de consultation publique.
Donc, vous dites peut-être des assouplissements, ce qui veut dire que le règlement qui a été adopté n'est pas encore coulé dans le béton. Là, on pourrait encore là jouer là-dessus. En même temps, bon, le règlement, il est clair pour ceux qui achètent une piscine après 2010, même si le terrain est clôturé, ça prend encore un obstacle entre la porte arrière et la piscine, parce que c'est là souvent qu'un enfant peut sortir de la maison et tomber dans la piscine éventuellement facilement. Là, ce ne sont pas pour les étrangers, puis les voisins, puis tout ça. C'est pour les gens qui sont à l'intérieur de la maison lors d'une grosse fête de famille, par exemple.
Entre autres, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de règlement. Donc, il n'est pas adopté encore. On a adopté le projet de règlement. Il y a une soirée de consultation publique. Les gens apportent leurs commentaires. Après quoi, on peut faire des modifications puis adopter le règlement modifié. Ça, il n'y a pas de problème. On est en processus d'adoption. Donc, il n'est pas encore adopté. Mais effectivement, moi, en tout cas, moi, je suis de celles qui dit, ben si c'est plus sécuritaire après 2010, ça doit l'être avant 2010. Maintenant, on part de certains qui avaient des droits acquis, qui avaient des piscines creusées, qui n'avaient même pas de clôture. Alors, peut-être qu'il y aura des assouplissements. J'ai déjà senti chez mes collègues hier soir, alors que, tu sais, ça avait été adopté unanimement le projet de règlement, mais j'ai senti qu'ils étaient prêts à faire certains assouplissements.
Alors, la réunion, vous pouvez nous rappeler encore une fois, là, une dernière fois, la date, le lieu et l'heure de la dite réunion?
Le 23 mars, à la salle du conseil, à 19h30.
Alors, vous y êtes tous conviés si vous êtes concernés d'une manière ou d'une autre par ce nouveau règlement entourant les piscines. Vicky Meham était avec nous, mairesse de Magog, afin de faire un suivi sur ce dernier conseil de ville. Merci beaucoup, Madame Ham, encore une fois pour votre collaboration. On vous retrouve dans quelques semaines. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.